L'actu sur un plateau.
La feuille de chou de Radio Larzac qui se cultive tous les 15 jours.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de l'actu sur un plateau avec aujourd'hui derrière les micros Amélie, bonjour.
Bonjour.
À la technique, Émilie, que vous venez d'entendre.
Bonjour.
Et Edgar, qui oscillera entre les deux, entre la technique et les micros. Bonjour Edgar.
Bonjour.
Alors Edgar, tu es avec nous, tu es à Radio Larzac depuis le début de la semaine pour ton stage d'observation de troisième.
Ouais.
Bon, ça s'est bien passé ?
Oh oui, très bien passé. Moi.
Bon, parfait. Alors tu feras une petite rubrique dans l'émission.
Ouais, hein. Vous me retrouverez d'ici à peu près une demi-heure.
Voilà, très bien. Donc je vais vous dérouler le sommaire de cette émission. Nous recevrons Bernard Gauvin pour l'Association des salariés agricoles de l'Aveyron à l'occasion de la sortie d'un livre, Les oubliés de l'agriculture, donc un livre consacré à 50 ans de vie des salariés agricoles dans le département de l'Aveyron. Bonjour Bernard Gauvin.
Bonjour.
Voilà, on vous retrouve tout à l'heure donc. Ensuite, on aura les pourquoi d'Edgar justement. Et puis ensuite, nous recevrons Guy Braic et Pierre Arnal donc au sujet du projet de parc animalier 6 Jean 2. Alors, ce sont des opposants au projet, ils viendront nous expliquer pourquoi. Voilà. Donc c'est le 24e numéro de l'actu sur un plateau et on va commencer ce 24e numéro avec toi Amélie. Et tu as pu joindre Guillaume Lechat pour l'agence de l'eau départementale parce qu'il y avait récemment un mouvement de grève nationale au niveau de l'agence de l'eau.
Voilà, c'était la semaine dernière.
L'invité de l'actu social.
Mardi 6 décembre, la semaine dernière donc, les agents de l'agence de l'eau de toute la France ont fait grève. Soutenue à 70%, elle avait dans le viseur le projet de titularisation du personnel qui risque fort de le précariser. Avec nous pour en parler ce matin, Guillaume Lechat, employé à Rodez, à l'agence de l'eau à Dour-Garonne et délégué syndical. Bonjour.
Oui, bonjour.
Alors peut-être pour commencer, pourriez-vous nous rappeler ce qu'est une agence de l'eau et quelles sont ses fonctions ?
Donc une agence de l'eau, c'est un établissement public de l'État, en fait, qui participe à la gestion de l'eau au niveau des grands bassins. Donc pour ce qui est de ce qui nous concerne, c'est à Dour-Garonne. Donc elle a pour fonction donc d'accompagner les collectivités pour améliorer la qualité de l'eau et les milieux aquatiques. Donc pour ce faire, en fait, les agences apportent des aides financières. Des conseils techniques auprès des usagers et des gestionnaires de la ressource en eau. Et en fait, pour cette aide financière émane du budget des agences qui est prélevé donc par des redevances à partir du moment où tout un chacun prélève, consomme de l'eau. Et donc, c'est ce qui alimente le budget. Et donc, la plus connue, c'est la facture d'eau que chacun d'entre nous paye toute l'année, donc voilà, c'est ce qui alimente les budgets. Voilà.
D'accord. Alors, sur le site de Rodez, tout le personnel a fait grève la semaine dernière, c'est ce qui est assez exceptionnel. Alors pourquoi cette grève ?
Pourquoi cette grève ? Donc, effectivement, ça a été un appel à un intersyndical, donc des quatre syndicats. Donc syndicat national de l'environnement dont je fais partie, la CGT, FO et CGC. En fait, les agents à l'agence de l'eau sont contractuels de l'État. Pour les 6 agences de l'eau que l'on compte au niveau français, et donc on a fait grève, comme vous l'avez dit, le 6 décembre, pour protester contre. C'est assez global puisqu'il y a aussi des suppressions d'emplois sur l'ensemble des agences de l'eau comme pour la fonction publique, la dévalorisation de leur statut, donc là c'est par rapport à ce dont on va parler, la titularisation, et plus largement aussi sur la hausse des prélèvements de l'État justement sur les budgets de l'agence. Donc en fait concernant la titularisation, en fait, suite à la loi du 24 avril 2007 qui est relative à la déontologie, aux droits et obligations des fonctionnaires, eh bien, il y a un projet de décret qui redéfinit les établissements, les emplois dérogatoires, puisque au sein des agences de l'eau et d'autres établissements publics, les postes sont considérés comme étant des postes dérogatoires car non couverts par les postes de fonction publique. Et donc, la titularisation est proposée maintenant suite à ce décret pour les agents des établissements publics comme l'Agence de l'eau. Et donc, c'est pour rentrer dans la fonction publique, donc il n'y a pas d'opposition à ça. Mais ce qu'il y a, c'est que la titularisation n'est pas satisfaisante pour les agents puisqu'elle prend en compte qu'une partie de la carrière des agents qui sera pris en compte. Et en fait, cette titularisation va donc concerner une plus grande partie des postes à l'agence, et après il y aura une autre partie, petite partie, donc de véritables spécialistes, donc qui peuvent pas être intégrés à la fonction publique car ce sont des postes très spécifiques, et donc eux ils resteront dans le statut ancien des agences de l'eau, et donc on ne sait pas du tout comment va évoluer ce statut puisque les agents qui resteront seront très peu, donc on se pose la question sur l'évolution de leur carrière. Et donc ce décret doit être fait de manière accélérée d'ici la fin de l'année puisque ils doivent déposer un projet en décembre pour une mise en œuvre du programme en avril. Et donc, c'est pour ça que les agents de l'agence demandent d'avoir un délai supplémentaire pour justement étudier et définir des conditions de titularisation qui soient satisfaisantes, quoi.
Alors, pour le moment, il serait plus intéressant pour vous de rester sur le statut de contractuel.
Dans les conditions qui sont proposées actuellement, oui, mais en même temps, si le statut n'évolue pas, ça sera pas non plus bon pour nous. Donc voilà, c'est vraiment se donner le temps de pouvoir y réfléchir, quoi, de définir des bonnes conditions de titularisation ou de rester dans les statuts, parce que c'est aussi une possibilité.
Alors, cette titularisation accélérée, qu'est-ce qu'elle aurait comme conséquence sur vos conditions de travail ou sur votre salaire ou autre?
C'est que il est prévu en fonction de l'ancienneté de chaque agent, que je vais peut-être pas développer parce que il y en a plusieurs possibilités, mais en fonction de l'ancienneté de chaque agent, une partie seulement, comme je disais, de l'ancienneté sera repris pour calculer le salaire des agents, et donc il est bien entendu que du coup il y aura une diminution du salaire de chaque agent titularisé, quoi.
Et alors pourquoi cette précipitation tout d'un coup pour la titularisation alors que vous avez toujours été des agents contractuels, enfin pour 90% du personnel en tout cas?
Pourquoi je suis pas à la place de la direction générale de la fonction publique, mais c'est pour je sais pas, c'est pour je sais pas pourquoi on accélère le pas, peut-être avant les élections certainement, hein, mais je vois pas pourquoi on nous titulariserait, je sais pas, c'est réduire le corps des agents contractuels certainement.
Et est-ce que ça changerait quelque chose à vos fonctions actuelles si vous pouviez aussi rappeler quelles sont d'ores et déjà vos fonctions en tant qu'agent?
Mes fonctions, moi personnellement, je travaille sur la gestion des milieux aquatiques, donc j'accompagne, comme je l'ai dit, les collectivités pour monter des projets de préservation des milieux et que ce soit cours d'eau, zones humides et également maintenant la biodiversité. Ce qu'il y a, c'est que on nous demande toujours plus de missions et on réduit le personnel, et en plus du coup le fait de baisser les salaires n'augmente pas la motivation des agents, quoi. Voilà, c'est ça surtout. Après, un usager sur un secteur ne va pas forcément voir la différence sur le rendu qu'il aura en fait.
Très bien, merci Guillaume Lechat d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes donc agent à l'Agence de l'eau à Rodez.
C'est ça. Je vous remercie.
Merci à vous.
Au revoir.
On fait une petite pause musicale et on écoute Caribou des Pixies.
Thank you.
Invitez-vous.
Invitez-vous.
Come on, everybody.
Nos micros sont ouverts.
Et notre invité, notre second invité, c'est Bernard Gauvin, donc, qu'on accueillait en début d'émission. Rebonjour Bernard.
Bonjour.
Alors, on vous a invité parce que vous publiez un ouvrage, Les oubliés de l'agriculture, avec un surtitre, Ils ne voulaient pas rester, les oubliés de l'agriculture. Donc 50 ans d'histoire des salariés agricoles et de l'ASAFPA de l'Aveyron. Alors l'ASAFPA, on le rappelle, pour ceux qui l'ignoreraient, c'était les associations des salariés de l'agriculture pour la vulgarisation du progrès agricole, qui ont été créées en France au début des années 60.
Voilà, et, à l'époque, on parlait de vulgarisation du progrès agricole. Ouais. Et puis assez vite, on s'est mis à parler de développement agricole. Vulgarisation, c'était un peu l'idée, il y a des gens en haut qui savent tout et on va aller apporter la base, la connaissance. D'accord. Mais on était encore dans ce contexte-là et les salariés voulaient avoir aussi leur part de...
Donc c'était pas trop dans l'éducation dans populaire en fait, il fallait diffuser le savoir du haut vers le bas.
La vulgarisation elle-même, les associations, elles sont plutôt dans une logique d'éducation populaire, c'est-à-dire de redonner la parole à des gens qui ne l'avaient pas à l'époque.
Très bien. Alors, donc, les salariés ont longtemps été les oubliés de l'agriculture, peu écoutés et peu considérés, alors que le monde agricole a connu de considérables changements au cours du dernier demi-siècle. Donc, cet ouvrage, il raconte comment les salariés l'ont vécu et quels ont été leurs combats pour tenter d'exister. Alors, vous avez coordonné la rédaction de cet ouvrage. Vous êtes ingénieur agronome. Vous avez commencé votre vie professionnelle comme salarié agricole.
Et, oui.
Et vous avez donc animé l'ASAFPA de l'Aveyron durant plus de 20 ans. ASAFPA qui est aujourd'hui devenue l'association des salariés agricoles de l'Aveyron.
Voilà, pour avoir un nom plus lisible. Les sigles aujourd'hui, on ne les comprend plus et il faut être simple.
Oui, c'est vrai qu'en agriculture, il y a beaucoup de sigles.
Il y a beaucoup de sigles et beaucoup de A en Aveyron, en agriculture.
Très bien. Alors ce livre donc, qui retrace 50 ans d'histoire, l'idée au départ, c'était quoi ? Pourquoi est-ce que vous avez voulu faire ce livre ?
Alors l'idée, c'était de faire mémoire quand même de tout ce qui s'est passé. Les salariés ont été les oubliés. Je ne sais pas aujourd'hui s'ils ne le sont pas encore un peu. Beaucoup de gens disent « Ah bon, mais il y a des salariés en agriculture, ça représente 1500 équivalents temps plein en Aveyron. » C'est pas négligeable. S'il y avait 1500 emplois à Rodez ou à Millau, tout le monde le saurait. C'est un emploi extrêmement dispersé, un peu précaire parfois, même s'il y a quand même beaucoup de gens en contrat long, en CDI. C'est une catégorie dont on parle pas. Globalement, dans la tête des gens, l'agriculture, c'est les agriculteurs. C'est vrai qu'ils numériquement forment le plus grand nombre, hein, mais les salariés sont là. Et l'idée de ce livre, c'est un peu de revisiter ces 50 années, de montrer comment ça a évolué. Mais pour une fois, on va faire l'histoire sous l'angle des salariés. Donc on va pas le faire sous l'angle des grands responsables, qui ont aussi eu leur part dans cette évolution. Comment les salariés l'ont vécu et surtout montrer que cette transformation, parce qu'il y a eu quand même une forte transformation, ne s'est pas faite toute seule. Elle s'est faite parce qu'il y a eu localement des gens qui se sont engagés, qui se sont pris en main, qui se sont battus pour que ça change.
Mais justement, cette volonté de progrès qui était affichée dans le sigle de l'ASAFPA, c'était quelque chose qui était porté un peu comme un fer de lance par les salariés à l'époque ?
À l'époque, le progrès, c'était merveilleux. Hein. C'était, on sortait d'une époque où c'était du travail physique, 7 jours sur 7, 365 jours par an, de l'aube à la nuit. La vie du salarié, c'était manier une fourche. Et donc, l'idée de progrès, les machines arrivaient, c'était à la fois la vie va être moins pénible. Et puis, peut-être aussi, on est passé de, après-guerre, 20 000 salariés en Aveyron, 4 000 dans les années 60, on est arrivé à 1000 plus tard, quoi. Donc, c'était ceux qui ne se forment pas, ceux qui ne s'adaptent pas à ces techniques nouvelles, ne resteront pas dans ce métier, partiront je ne sais où.
Alors, pour réaliser cet ouvrage, j'imagine que vous avez fait, vous êtes allé chercher dans les archives de l'association, mais pas seulement, il y a aussi peut-être des archives personnelles, non, qui ont été mises à contribution.
Oui, à la fois, on a la chance qu'on ait une association donc, départementale qui édite un bulletin depuis 50 ans. Donc déjà, ça a permis de choisir les témoignages. Le but du bulletin, c'était à la fois d'apporter de l'information, mais de donner la parole à des gens qui ne savaient pas, qui ne croyaient pas assez en eux pour écrire des parcours de vie, des choses comme ça, quoi. Donc j'ai essayé de reprendre les plus concrets, les plus croustillants, les plus significatifs, si possible. Et puis aussi, on a la chance d'avoir encore vivant de ceux qui étaient à la Fondation. Donc c'est quand même assez extraordinaire d'avoir des gens, 50 ans après, qui ont vu... Bon, ils ont démarré comme un groupe qui se disait, voilà, les choses doivent changer, c'est plus possible, mais ils ne savaient pas si ce serait un feu de paille, qu'un an après, il n'y aurait plus rien, et 50 ans après, il y a toujours quelque chose. Donc, il y avait vraiment un besoin de fond, et donc, ces personnes-là ont été interviewées, puis des plus jeunes, des gens de toute génération, et qui ont relu plusieurs fois cet ouvrage, donc c'est pour ça que c'est quand même un ouvrage collectif, c'est-à-dire, à la fois, je prends le risque de ce que j'ai mis, hein, s'il y a une erreur, je l'assume, mais il y a quand même une volonté collective de dire, qu'on ne soit pas non plus une nouvelle fois oublié dans l'histoire de cette agriculture auquel les salariés ont une vraie part. Quoi.
Donc vous avez réellement fait une œuvre de collectage pour écrire cet ouvrage.
Voilà, de collectage, essayer de le remettre un peu en perspective. Donc on part, y avait ce film qui avait été tourné, donc le DVD est un peu inséré avec le livre.
Oui, alors il faut en parler de ce DVD, effectivement.
On peut en parler. DVD, alors lui, il s'est tourné donc sur 3 départements, Tarn et Garonne, une bonne partie en Aveyron. Il est passé une émission qui passait à la télévision. À l'époque, il n'y avait pas plusieurs chaînes. Hein. C'était une émission qui s'appelait Télépromotion Rurale, qui était destinée aux agriculteurs. Et les salariés de Midi-Pyrénées ont pu avoir une émission spéciale sur les salariés. Donc, qui a donné ce film de 28 minutes de Marcel Tria, qui est par ailleurs devenu une pointure du cinéma par la suite, et qui a été diffusé dans des cinémathèques dans la France entière pendant 1 ou 2 ans. Donc, c'était quand même un film qui parlait. Alors, il est tourné en Aveyron, dans le Nord Aveyron, donc à l'autre bout du département, mais on aurait peut-être pu trouver des situations tout à fait semblables dans le Sud. Et voilà, les salariés qui expliquent qu'était leur quotidien.
Donc, ça, c'était
au bout des tables. Ici, c'était peut-être dans la bergerie, et puis.
Au-dessus de la salle de traite.
Voilà.
Donc ça, c'était en 1971.
Voilà.
Marcel Tria, effectivement, c'est devenu un réalisateur connu. C'était aussi un militant de gauche assez engagé. Et, est-ce que ça a été facile, la collaboration avec lui, au moment de faire le film?
Alors, les salariés racontent qu'ils ont été un peu en conflit quand ils sont allés monter à Paris voir les rushs et puis qu'il a fallu sélectionner les images. Parce que quand même, les salariés... Ils avaient choisi des employeurs qui n'étaient pas les pires non plus et qui étaient de bonne volonté. Donc, ils ne voulaient pas qu'il y ait une image ni dégradante de leur situation, c'est-à-dire plus misérabiliste qu'ils n'étaient, ni des employeurs, parce que les salariés sont à la fois en débat avec leur employeur. Il y a toujours des questions de temps de travail, de salaire, mais c'est aussi l'employeur, celui avec qui il faut que ça se passe bien, sinon il n'y a pas de travail demain. Donc, c'est un peu cet équilibre que demande le salariat en agriculture, quoi.
Alors, vous nous parlez aujourd'hui de 1500 personnes sur le département de l'Aveyron qui ont le statut de salarié agricole. Est-ce que, par rapport à vos adhérents de l'association des salariés agricoles de l'Aveyron, vous avez tout le monde ou comment...
Non. Non, parce que... Alors, peut-être une spécificité, c'est-à-dire comme une chambre d'agriculture, une association, elles ont été créées par un décret qui leur a donné une mission, donc il n'y en a qu'une par département, et une mission de service auprès de tous les salariés. Donc n'importe quel salarié peut s'adresser à nous, gracieusement on va le faire. Donc on peut dire que les adhérents, c'est un peu le noyau qui porte, qui fait vivre cette association, puis ceux qui s'impliquent, qui participent à des réunions, et on sait que... C'est vrai qu'aujourd'hui, avec Internet, l'info, c'est plus facile qu'à l'époque où dans sa ferme, avoir les infos sur le droit social, c'était presque mission impossible. Aujourd'hui, on peut, même s'il y a beaucoup d'infos et que les gens, des fois, sont un peu perdus parce que trop d'infos, des fois, c'est pas mieux. Et par contre, on constate que quand des gens se rassemblent pour parler de leurs questions, bon, par exemple, on a eu des groupes de... Aujourd'hui, on a des femmes salariées en agriculture qui essayent de trouver leur place. C'est pas forcément évident. Mais cette problématique, s'il n'y a pas un groupe pour dire « on veut que cette question se pose publiquement », ben, elle se pose jamais, quoi. S'il n'y a pas des groupes qui se mobilisent... Et... On a parlé sur la formation. Il y a des tas de droits à la formation, mais qui sont très peu utilisés. Donc, les salariés agricoles se forment peu. Ils sont souvent bien formés au départ, ils sortent des écoles, mais après, de toute leur vie professionnelle, s'ils sont pas là
pour se battre... Il n'y a pas de formation continue.
Elle existe. Elle existe, mais...
Est-ce qu'il y a un OPCA pour le salarié agricole?
Tout à fait, qui s'appelle le FAFCA, qui s'est peu élargi. Au départ, il n'était que les salariés de la production agricole. Aujourd'hui, il englobe tous les organismes agricoles, les chambres d'agriculture et tout. Donc, les salariés deviennent un peu les... sont plus la priorité, quoi.
Et alors, en quoi, Bernard Gauvin, en quoi est-ce que votre association, donc l'association des salariés agricoles de l'Aveyron, est-ce que c'est différent d'un syndicat?
Alors, on l'explique un petit peu. Hein. Ce sont des syndicats qui sont à l'origine de ce mouvement, qui se sont battus pour obtenir une convention collective. Il faut savoir que la première convention collective, c'est en 1969. Hein, et il y avait des métiers qu'il avait depuis des décennies déjà. Et quand il y a eu ces possibilités de financer un poste, d'avoir quelqu'un au service, comme dans les chambres d'agriculture, le ministère a dit « Ok, si vous créez des associations au service de tout le monde et pas seulement de vos adhérents ». Donc les associations n'ont pas de mission de défense syndicale, de négociation, de représentativité.
Vous pouvez pas négocier avec
Non, ce sont les syndicats qui le font et d'accord. Les missions sont claires. Par contre, les syndicats, ben, ce sont eux qui ont défendu souvent nos subventions à la Chambre d'agriculture, à la MSA. Donc c'est plus une complémentarité.
Il a fallu se battre un petit peu pour ça.
Des rôles. Ah, ça a été un combat, parce oui. Ben,
vous aviez un peu la portion congrue au départ, non? En ce qui concerne...
Oui, bah un des pionniers, donc c'est Maurice Bourdoncle, hein, qui a été une figure de ce département, hein, qui s'est battu dans toutes les assemblées pour demander que les salariés, on ne les oublie pas et qu'ils aient leur part. Ça n'était pas simple. Au début, on disait, mais on ne peut pas parler avec ces gens-là, c'est tous des ivrognes. Enfin, que faire? Voilà, ce n'était pas une catégorie digne. Et puis, on s'est aperçu que finalement, ils étaient comme les autres. Alors là, je remonte à il y a 50 ans. Hein. Aujourd'hui, les choses ont quand même bien évolué.
Alors, justement, parlons de cette évolution. Reparlons de cette évolution. Vous nous avez dit qu'aujourd'hui, c'était 1500 personnes qui sont salariés agricoles en
alors,
environ.
Pas exactement 1500 personnes, 1500 équivalents temps plein.
D'accord.
C'est le problème.
Oui, pardon.
Ça veut dire 2 à 3000 personnes qui ont ce statut, d'accord. Mais qui peut-être qu'un millier de permanents, parce que ceux qui travaillent pour 3 mois l'été, bon, ils sont...
ça inclut les saisonniers donc, en fait.
Voilà. Ouais. Sauf que chez nous, les saisonniers, c'est pas les cueillettes, les récoltes l'été, c'est plutôt les agnolages l'hiver, ou les périodes de foin, de moisson, etc. Quoi.
Alors justement, pour le sud Aveyron, où l'élevage au vin-lait est très développé, donc où il y avait des bergers auparavant, par exemple. Comment est-ce que ça a évolué, cette situation?
Alors effectivement, le secteur du sud Aveyron a été pendant longtemps le secteur qui a tiré l'emploi vers le salarié en Aveyron. Hein. Le brebis laitière, il y avait du salariat, il y avait un peu de moyens pour les payer. Ce qui a changé, c'est qu'on ne garde quasiment plus les brebis. Hein. Avant, le salarié, il commençait sa journée tôt, il passait toute sa journée à garder les brebis, rentrait le soir. Aujourd'hui, on ne garde plus. Et ce qui fait que une bonne partie de l'année, quand le travail en bergerie est fini, le travail c'est plutôt un métier de chauffeur de tracteur, c'est aller dans les champs, etc. Ce qui fait qu'aujourd'hui certains sont un peu déçus, ils arrivent, ils se forment, ils savent tout pour être berger, on leur dit « est-ce que vous savez conduire les tracteurs ?» Non, parce que s'ils ne sont plus du milieu agricole, ils n'ont pas appris, ils sont excellents en production.
En conduite de troupeau.
En production, voilà, ils savent tout sur la génétique, l'alimentation, la traite, la qualité du lait, tout ça. Mais on leur demande... Puis beaucoup d'éleveurs, ils savent que leurs revenus, ils le font dans la bergerie. Donc finalement, un travail facile à déléguer, c'est d'aller conduire les tracteurs. Mmh. Ce qui a beaucoup changé. Avant, le tracteur, c'était, on ne le prêtait pas aux salariés. Oh là là, c'était
alors justement,
trop beau matériel.
Avec les problèmes qui se posent actuellement en Sud-Aveyron, justement, avec les phénomènes de prédation sur les troupeaux, est-ce que ça ne repose pas la question de la présence humaine sur le territoire et donc du fait de la garde des troupeaux, quoi?
Alors ça, c'est une grande question. Le problème, c'est aussi la rémunération du coût de l'heure. Hein. Il faut savoir que c'est la grosse difficulté de l'agriculture et la difficulté du salariat. C'est-à-dire, quand on est agriculteur, on ne pense pas le revenu en termes de combien coûte chaque heure de travail. On a un revenu global et un temps de travail et tout ça. Dès qu'on est dans une logique de salariat, on apporte une autre dimension qui est celui des horaires, de l'organisation du travail, des temps libres. Donc c'est forcément toujours un peu en choc, entre guillemets. Certainement une présence humaine, mais alors est-ce que vraiment l'agriculture peut rémunérer au prix de l'heure des gens pour garder les troupeaux?
Je pense
qu'il faudrait aussi régler cette question si on veut régler la question du loup de cette façon.
Bien sûr. Je crois qu'actuellement sur le... Alors, je ne sais pas en élevage laitier, mais pour un élevage au vin viande, il faut un troupeau d'environ 800 têtes pour pouvoir salarier quelqu'un, enfin sur un salariat.
Oh, ça peut... Non, je pense qu'il y a des gens avec 300, 500 brebis.
En viande, hein, je parle. Hein,
en brebis viande, non, voilà, mais c'est en brebis lait que sont les emplois, hein, c'est pas en brebis viande. Donc, ce qui se passe aussi, c'est qu'avant, c'était une famille. Il y avait souvent une famille, un homme, une femme, des parents, des enfants grands, des fois des oncles, enfin c'était toute une... Et aujourd'hui, des fois, c'est une personne toute seule. Un conjoint, souvent c'est la femme, travaille à l'extérieur. Donc c'est une personne toute seule qui doit être là 7 jours sur 7, toute l'année, etc. Donc le salariat a sa place, mais il fait un peu le même boulot que l'agriculteur, et sur des horaires différents, sur des périodes différentes. Et...
ça permet aussi peut-être d'organiser les temps de repos aussi au niveau du travail, enfin de la conduite de l'exploitation, parce que ça aussi c'est quelque chose qui est apparu tardivement dans l'histoire de l'agriculture et du salariat agricole.
Ah bah, toute la question d'aspiration au loisir, hein, que le phénomène des 35 heures a été un choc pour le monde agricole, parce qu'à la fois c'était incompréhensible travailler 35 heures, mais en même temps ça posait la question, est-ce que l'agriculture, c'est que travailler jour et nuit tout le temps, ou est-ce qu'il y a une place pour le loisir et le repos? Donc le salariat apporte une solution, et notamment les services de remplacement aussi, qui permettent de partir en vacances, de se donner le droit d'être malade. Avant, on n'avait pas le droit. Hein. Quand on est tout seul et qu'on a un troupeau, un remplaçant qui arrive, et certains groupes organisés, groupements d'employeurs, CUMA aussi, ont des salariés dans l'idée que s'il y a une urgence quelque part, le salarié va intervenir et...
Très bien. Mais merci beaucoup, Bernard Gauvin. Donc, on rappelle le titre de cet ouvrage. Il ne voulait pas rester les oubliés de l'agriculture. Donc, 50 ans d'histoire du salariat agricole et de la SAFPA en Aveyron. Donc, il y a. Comment est-ce qu'on peut se procurer l'ouvrage?
Alors, par correspondance.
Par correspondance.
Auprès de l'association, donc... il suffit de taper sur Internet. Sur le Sud, il est disponible à la librairie Comamio, à la Maison de la Presse à Saint-Afrique. Bon, pour le moment.
Très bien.
Voilà. Voilà. Et puis il y a aussi, je ne l'ai pas cité, on ne pouvait pas tout dire, mais il y a toute l'histoire des concours chiens de berger, des formations chiens de troupeau qui ont démarré sur le Larzac et qui ont été une grande page aussi de l'histoire de l'association.
Donc à l'initiative,
puisque c'est
à l'initiative
des salariés qui voulaient se former.
Mmh, très bien. Et puis on rappelle également le DVD donc avec ce film de 1971
voilà,
de Marcel
Trigat.
Voilà, très bien, parfait. Merci beaucoup Bernard Gouvin.
Merci à vous.
La lumière en plein, et dans l'ombre en silence, si tu cherches un abri inaccessible, dis-toi qu'il n'est pas loin et qu'on y brille à ton étoile. Ton étoile, petite sœur de mes nuits, ça m'a manqué tout ça. Quand tu sauvais la face à bien d'autres que moi. Sache que je n'oublie rien, mais qu'on efface à ton étoile. À ton étoile. À ton étoile. À ton étoile. À l'horizon, des soleils qui s'inclinent comme on n'a pas le choix, il nous reste le cœur. Tu peux cracher, même rire, et tu le dois à ton étoile. À ton étoile. À Marcos, à la joie. À la beauté de rêve. À la mélancolie, à l'espoir qui nous tient. À la santé du feu et de la flamme, à ton étoile, à ton étoile, à ton étoile.
Pourquoi ?
Pourquoi ?
Pourquoi ?
Pourquoi ?
Pourquoi ?
Pourquoi ?
Non mais pourquoi ?
Parce que !
Les pourquoi, une nouvelle rubrique très temporaire dans l'actu sur un plateau, puisque c'est la rubrique d'Edgar.
Eh oui.
Alors Edgar, donc stagiaire en stage d'observation pour toute la semaine à Radio Larzac. Et voilà, donc pour ce numéro de l'actu sur un plateau, tu nous as préparé une nouvelle rubrique. Alors pourquoi ? Ben, on va commencer par ça, hein, c'est le début de toute question. Et c'est moi qui vais la poser, cette question. Pourquoi le Père Noël est-il habillé en rouge ?
C'est Coca-Cola qui a donné sa couleur rouge au Père Noël, non ?
Et non. Je vais briser le mythe, mais c'est pas Coca-Cola qui a habillé le Père Noël en rouge. Coca-Cola a juste dessiné le vieux monsieur grassouillet qui boit une bouteille. C'est en 1860 que des illustrateurs new-yorkais représentent un bonhomme qui vient donner des cadeaux aux enfants. Il se base sur la légende de Saint-Nicolas. Tiens, Nicolas, est-ce que tu connais Saint-Nicolas ?
Oui, j'ai entendu parler de Saint-Nicolas, effectivement.
Ouais, Saint-Nicolas, c'était un saint qui protégeait les plus faibles. Il était représenté avec une cape rouge, donc c'est d'ailleurs lui qui a inspiré le Père Noël pour sa couleur. Mais à la différence du Père Noël, qui était représenté sur des rennes, Saint-Nicolas est représenté sur un âne. Saint-Nicolas n'est pas la seule influence du Père Noël. Certains illustrateurs représentent un nain, d'où la légende actuelle du Père Noël qui passe dans les cheminées, mais l'histoire de la marque reste quand même étroitement liée avec le Père Noël. Pendant l'année, les boissons gazeuses étaient vendues l'été, mais leur consommation chutait pendant les périodes d'hiver. Alors, cette fameuse boisson gazeuse dont je ne dirai pas le nom, sinon je vais me faire engueuler, a eu l'idée de représenter le Père Noël actuel, vieux bonhomme grassouillet, en train de boire une bouteille de Coca entre deux tournées. Coca-Cola n'a pas inventé le Père Noël, mais en a fait sa mascotte pour les périodes d'hiver.
Dis donc, t'es pas très gentil avec le Père Noël, quand même.
Non, il était gentil avec moi.
Ça va, c'est le principal.
Ouais.
Il va bientôt arriver, en plus.
Ah oui.
Alors, une autre question, Edgar. Pourquoi le ciel est bleu ?
Alors, c'est une question là où la plupart des pères répondraient, c'est demande à ta mère. Mais moi, je vais y répondre. Alors, tout d'abord, il faut savoir que le soleil, la base de notre éclairage, c'est une lumière appelée lumière blanche. Cette lumière blanche est composée de rouge, d'orange, de jaune, de vert, de bleu, d'indigo et de violet. Ces couleurs sont les couleurs de l'arc-en-ciel. Quand la lumière blanche traverse l'atmosphère, elle percute des gouttes d'eau, de l'air, de la poussière. Alors cette lumière se décompose, et les couleurs qui la composent arrivent en quantité plus ou moins grande. Et celles qui passent le mieux, ce sont les bleus, le violet et l'indigo. L'indigo, c'est une espèce de bleu. Quand ces trois couleurs se mélangent, bah, ça donne du bleu. Et ce bleu, il se reflète dans le ciel. C'est aussi comme ça que sont créés les arcs-en-ciel.
Ah oui ? Mais comment on passe de la lumière aux couleurs de l'arc-en-ciel alors ?
Bah, quand il vient de pleuvoir et qu'il y a du soleil, ça forme un arc-en-ciel. Parce que quand il y a de la pluie et qu'il reste des gouttelettes dans l'air, et quand la lumière blanche rencontre les gouttelettes, elle se décompose. Donc quand elle se décompose, on peut voir apparaître les couleurs de la lumière blanche.
Oui, mais alors pourquoi on épluche les oignons ? Pourquoi on pleure quand on épluche les oignons ?
Pourquoi on épluche les oignons ? Sûrement pour faire transition. À manger. Sûrement pour faire... Tu as l'air d'avoir faim. Hein.
C'est un peu l'heure. Hein.
Non, pourquoi on pleure quand on épluche des oignons ? Ben, alors déjà, c'est pas notre conscience qui nous fait pleurer parce qu'on fait mal à l'oignon. Déjà, c'est une bonne chose. Mais quand on épluche des oignons, on leur enlève leurs différentes couches. Et en dessous de ces couches, il y a des produits chimiques créés par l'oignon. Et quand ces deux produits chimiques se rencontrent, ça forme un gaz très irritant pour les yeux. Et quand ce gaz, il monte jusqu'à nos yeux, ben, ça nous fait mal. Donc du coup, pour pas avoir mal, ben, nos yeux, ils pleurent. Mais les larmes, ça ne fait que renforcer la douleur du gaz irritant. Donc c'est un cercle vicieux. On a mal aux yeux, on pleure, on a mal aux yeux. Donc il y a plusieurs techniques pour arrêter de pleurer. Soit on peut éplucher les oignons sous l'eau, donc le gaz y monte pas. Soit dans un sac plastique, donc le gaz reste dans le sac plastique. Pour les plus vaillants, ben, vous pouvez faire ça avec un masque de plongée.
Ah, c'est atroce d'apprendre qu'on se fait souffrir nous-mêmes en provoquant nos larmes.
Et ouais.
Qui alimente le jeu. Alors, dernière question, Edgar, pourquoi on bronze ?
Alors, pourquoi on bronze ? C'est bien le bronzage, hein. Ça donne bonne mine et ça nous rappelle les vacances. Tout le monde a envie de garder son bronzage, finalement, le plus longtemps possible. Mais le bronzage, il reste pas indéfiniment. Et il vient pas en claquant des doigts. Sinon, moi, j'aimerais bien, hein. Je suis bronzée, hop là, je suis bronzée. Ce qu'il faut savoir, c'est que la peau, elle est composée de trois couches. Quand on expose la peau au soleil, ces trois couches se font attaquer et la peau prend les rayons du soleil comme une attaque. Et pour se défendre du soleil, la peau produit un pigment qui la colore. Notre peau devient bronzée et elle est protégée du soleil. Mais il faut faire attention. Ces défenses, elles sont pas illimitées. Donc si on reste trop longtemps au soleil, notre peau, elle a pas le temps de se défendre et elle brûle. Et les coups de soleil font leur apparition.
Eh bien, merci Edgar pour toutes ces réponses à nos questions ben essentielles.
Merci,
merci beaucoup.
Il faut quand même rappeler que c'est Edgar aussi qui a créé son générique tout seul.
Oui, absolument.
Donc bravo.
Merci. Et grâce au pourquoi de l'équipe, hein, au magnifique pourquoi.
Et on enchaîne avec une petite pause musicale de ton choix aussi.
Ah oui. Donc oui. C'est... Et qui va bien plaire à mon père.
Donc c'est Eminem.
Oui, check voilà. That.
B-T-O-V. There she go, shaking that ass on the floor, bumping and grinding that pole. The way she's grinding that pole. I get in the end, I'm gone. My eyes ain't clean, I'm blown. So she hear me wrong. I'm kinda in the zone, cause the DJ playing my song. Just another opportunity for saying I'm known. I'm from Atlanta, so Southern is just a part of my grandma. I can up and cock my hammer for any nigga with Anna. But I came here to get on Goose and Tropicana. Get loose, put some more of my juice in your caboose. Sipping everything from white grain to deuce juice. With nothing to gain with my grains and loof tubes. Eminem came with Overstat and Proof too. Bobby Krieger's in the place, the name is new too. But the money been around, my drinks is 10 around. I can make her spin around. She keep her dinner down, simmer down. We can hit the telly when the fun stops. And I let you in your world, come tickle my gumdrops, yeah.
Three to the one, from the one to the three. I met a bad bitch last night in the D. Let me tell you how I made her leave with me. Conversation and Hennessy. I've been to the motherfucking mountaintop. Heard motherfuckers talk, seen them drop. If I ain't got a weapon, I'ma pick up a rock. And when I bust your ass, I'm gon' continue to rock. Get your ass off the wall with your two left feet. It's real easy, just follow the beat. Don't let that fine girl pass you by. Look real close, cause strobe lights.
We about to have a party.
Turn the music up.
Let's get it started.
Go ahead and shake your butt.
I'm looking for a girl with a body and a sexy strut. Wanna get it poppin', baby, step right
some
up.
Some girls, they act retarded. Some girls are body, body.
I'm looking for a girl that will do whatever the fuck I say every day, she be giving it up.
Yeah.
Shake that ass for me. Shake that ass for me. Come on, girl, shake. Ass for me, shake that ass for me. Oh girl, shake that ass for me. Shake that ass for me. Come on girl, shake that ass for me. Shake that ass for me.
Oh, twice. One slug, couldn't snuff. Young cuz, goodness gracious. Hate to stay on his nuts. Wood just like a hood rat chick who was curious. Serious, full breast, ready to touch. Who's that in the cool blue back with a blue new wag, giving head while he popping the clutch. True that, I had a few while we rolling with Bruce and Nathaniel. Annually knocking the boots. It's all manual the way I get them out of their shoes. Talk a little shit, then they ain't as a ooze. Park a little spit on my dangling boo. It's shady. You know the name of the crew. You know the aim is to bang you in a mansion with a magnum when the night came to the matinee. Mathers, Nate, OB, came to party. You better ask somebody.
Now shake that ass for me. Shake that ass for me. Come on, girl, shake that ass for me. Shake that ass for me. Oh, girl, shake that ass for me. Shake that ass for me. Come on, girl, shake that ass for me. Shake that ass for me. Shake.
L'invité de l'actu social. Et voilà, il est l'heure d'accueillir nos derniers invités de l'émission. Et donc ces derniers invités, c'est Guy Brahic, bonjour.
Bonjour.
Et Pierre Arnal, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes tous deux membres du collectif de préservation des garrigues de Saint-Germain. Et donc il faut tout de suite préciser que ces garrigues de Saint-Germain, vous souhaitez les préserver contre le projet de création d'un parc animalier appelé Cijan 2. Et un projet qui est porté par la mairie de Millau et la communauté de communes des Grands Causses, Millau Grands Causses.
Voilà, c'est ça. En fait, c'est un constat qui est local. Hein. Les habitants de Saint-Germain commencent seulement à réaliser, ils ont peut-être été un peu lents à la détente, par rapport à tout ce qui s'est fait ces dernières années sur les garrigues de Saint-Germain. D'abord, il y a eu effectivement le tracé de la 75 qui a modifié complètement toute l'écologie du Causse-Rouge et du Lévézou au-dessus. Bon, parce qu'on a, on a tracé quelque chose, un gros ruban d'asphalte. En fait, bon, utilité publique, évidemment, mais ça a quand même beaucoup changé l'arrière-pays, quoi, au nord de Millau. Là derrière, il y a eu la mise à disposition des terrains autour du hameau des Fialets pour constituer une première zone, on va dire, artisanale, industrielle. Ça n'a pas l'air comme ça parce que c'est plutôt bien fait, on va dire. Et ça a quand même profondément modifié l'arrière-village, même si la clause, M. Coulon s'y était employé, c'était que ça ne soit pas visible du village de Saint-Germain. Ça a tout changé. Le village des Fialets, aujourd'hui, il est détruit, hein, clairement. Il est entouré de bâtiments en tôle et en bardage. Il n'y a plus aucune vue. C'est vraiment très moche, quoi. Il faut dire les choses comme elles sont. Et alors, ce qui a commencé à nous faire réagir, mais c'était un peu tard, c'est cette zone, donc, Fialet 2, quoi, Millau Viaduc 2. Très, très sincèrement, hein, c'est notre faute, hein, parce qu'on n'est même pas allé lire le rapport de public qui a été édité à la mairie. Le premier qui a ouvert l'enveloppe, c'est Bertrand Bonnefous, des Vals. Et il était le premier à l'ouvrir, c'était la veille de la décision finale et de l'autorisation. C'était beaucoup trop tard pour entreprendre quoi que ce soit. Aujourd'hui, on a une zone qui est complètement ravagée. Si vous avez la curiosité d'aller faire un tour autour des Bouscailloux, vous verrez, il y a une vallée entière qui a été déboisée. C'est sûr que ces arbres ne seront jamais replantés. Bon, moi, je m'étais un peu élevé là-dessus, même si je suis ami avec pas mal de personnes de la municipalité actuelle. Je leur ai dit, mais il y a quand même un problème. On n'est pas des contestataires, disons, systématiques. Hein. Mais il y a quand même un problème, c'est que toutes ces déforestations, qui sont importantes, il faut quand même se rendre à l'évidence, ne seront jamais compensées par des plantations. On ne rendra jamais à la nature des zones qui vont être ratiboisées, il faut dire les choses de manière claire. On le voit, hein. Sur la Comcom, il y a plein d'endroits où il y a des endroits qui sont complètement déforestés ou qui ont été utilisés, disons, pour l'industrie ou le commerce ou l'artisanat, qui sont plus utilisés aujourd'hui. Je pense particulièrement à ce qui se passe sur Saint-Georges avec l'usine de Lactalis là, qui va rester en plan et que personne ne va démolir.
Hein. Alors, si vous voulez bien, on va resituer quand même le lieu, ouais. Le lieu de votre combat. Hein. Mmh. Donc, c'est un triangle qui s'inscrit entre l'A75 à l'est, la D911 à l'ouest et la D29 au nord, donc juste au nord du village de Saint-Germain. Ouais. Hein, voilà. Et donc c'est ce périmètre-là qui est concerné par le projet de création de ce parc animalier. Alors, faut rappeler un petit peu l'historique. Fin 2014, le parc de Sigean, donc dans l'Aude, est fortement impacté par les inondations.
C'est ça.
On rappelle qu'il y a 3800 animaux qui vivent sur 300 hectares, à peu près. Et à ce moment-là, la ville de Millau se propose pour accueillir sur cette zone que je viens de citer, donc de relocaliser en fait, en quelque sorte le parc animalier de Sigean. Puis entre-temps, Sigean s'est doté d'une digue, a prévu des installations pour faire face aux crues futures, enfin aux inondations futures. Et donc maintenant, ce dont il est question, c'est d'un deuxième parc, en fait, qui prendrait place sur ce périmètre-là.
C'est ça, une réserve de la réserve, en fait.
Voilà.
Alors le truc, c'est quand même une manip à la base. Hein. Les responsables de Sigean, qui est une entreprise privée, il faut quand même le rappeler, se sont servis d'une certaine manière de la proposition de Millau pour faire pression sur les élus de Sigean, de manière à ce qu'ils engagent des travaux pour leur permettre de préserver leur activité privée, j'insiste. Mais là-dessus, le maire de Millau, qui est un ami, Christophe Saint-Pierre, a embrayé, il a cru vraiment. C'est un peu le problème du politique qui veut se mêler de l'économie privée, quoi, si vous voulez. Et d'une certaine manière, il est parti du principe qu'il y avait des emplois à créer, hypothétiques. C'est là-dessus qu'ils ont insisté lourdement pour justifier cette réserve de la réserve. Bon, faut quand même se rendre à l'évidence. On est dans un pays qui a quand même une vocation à conserver son authenticité. Balancer des animaux, même asiatiques, sur une zone comme celle-là, ça n'a aucun sens sur le plan éthique, quoi. Il faut, même s'il y a des gens qui sont convaincus qu'ils doivent sauver tous les animaux africains ou asiatiques, en Europe, il y a quand même un problème décisionnel. Il y a des gens qui sont à fond pour ce projet à la mairie de Millau. Je ne sais pas qu'est-ce qui les motive ou qui les motive à ce niveau-là. Mais ils sont assez virulents et ils sont assez sûrs de leur fait. Pour nous à Saint-Germain, pour revenir à nous, hein, on est convaincu que ça serait dénaturer vraiment la zone, vraiment la dénaturer.
Amélie,
est-ce que contre ce projet et sur cet aspect éthique, justement, vous arrivez à regrouper d'autres oppositions qui seraient moins impactées localement, pas forcément des habitants de Saint-Germain, mais des gens qui s'opposeraient à l'aspect éthique du projet, justement.
Pas encore. C'est très étonnant, d'ailleurs, parce que dans les milieux, on va dire même de type écologiste, il y a des gens qui sont convaincus que les réserves sont une très bonne chose. Les réserves exotiques, on va dire. Et c'est très étonnant, j'étais très étonné de ça. Il y a un écosystème qui fonctionne hein, au nord de Saint-Germain. Ça marche, on a même des loups. Hein. Pierre pourra vous en parler tout à l'heure. On a des troupeaux impactés par ça. Mais tout fonctionne. Il y a des troupeaux de chevreuils, il y a du sanglier, il y a des petits animaux partout. Il y a des batraciens, il y a des insectes en quantité phénoménale. Il y a un système écologique qui fonctionne et on va le bazarder avec des grillages de 2 mètres et des voies d'accès. Et puis des infrastructures touristiques, et ça finira papier gras et barbe à papa, quoi. Il y a un problème, là, quand même.
Alors, pour revenir à l'historique du projet, en octobre 2015, le Parc naturel régional des Grands Causses vote en faveur de l'adhésion à l'association de préfiguration du parc animalier en question, association de préfiguration qui est créée tout début 2016. Et au printemps 2016, il y a une enquête de faisabilité qui est lancée. Mm-hmm. Elle est financée à hauteur de 70 000 euros par la mairie de Millau et de 40 000 euros par la communauté de communes.
Contrôle forcé. Hein, voilà. La communauté...
C'était difficile le vote, vous voulez dire
Disons, les gens étaient réticents. Hein. Balancer 110 000 euros, Maître Espère s'en a parlé dans un article sur le journal, pour quelque chose qui est complètement hypothétique, c'est déjà très cher.
D'accord. Et donc, normalement, on attendait les conclusions de cette enquête pour cette fin d'année. Mais à ce jour, on n'a pas les conclusions.
Le flou est entretenu, là. Je pense que le flou est entretenu parce que dès que les choses seront connues, il y a des gens qui vont dire « Ah, mais ça risque de se faire ». Parce qu'aujourd'hui, il y a plein de personnes qui sont contre. Il y a eu une sorte de test réalisé par la presse miavoise à ce sujet, il y a plein de gens qui sont convaincus que ça ne se fera pas. Et donc, ils ne se mobilisent pas. Il n'y a pas de mobilisation parce qu'en fait, c'est tellement ahurissant, enfin, on va dire, excusez-moi le terme, et tellement coûteux parce qu'on a déjà les premières lignes budgétaires pour les infrastructures. Ce que je trouve absolument ahurissant, c'est que la communauté de communes ou la mairie de Millau finance une entreprise privée. Si le gars était arrivé avec des fonds qu'il achète 300 hectares pour créer son entreprise, c'est son problème à la limite. Mais que nous, les citoyens, les contribuables, on finance les structures ou les infrastructures d'une entreprise privée pour aboutir à des désastres financiers, genre Micropolis ou Saint-Jean-de-Bruel, il y a quand même un souci, quoi, citoyen. Où on met l'argent et où va finir, quoi. Qui va en profiter au final. Bon, c'est pas les seuls problèmes qui seront soulevés par le projet. Mais comme aujourd'hui, il n'y a pas encore d'études publiques, publiées, et donc personne ne pense que ça va se faire. La plupart des gens concernés pensent que, bon...
D'accord. Donc, on va laisser parler un petit peu Pierre Arnal, puisque vous nous aviez proposé justement d'avoir un regard croisé sur cette question. Donc, vous, Monsieur Arnal, qu'est-ce que vous en pensez
Je vais plutôt développer l'aspect agricole. L'environnement a été détruit sur les zones par l'autoroute, mais il faut savoir que c'est la valeur d'une belle exploitation qui a disparu. Et là, on va encore nous amputer de 30 hectares labourables, plus en gros 150 hectares de pacage, et des hectares également des bois, où la population de Saint-Germain peut prélever du bois pour se chauffer. Donc, je trouve qu'à l'heure actuelle, où on évoque beaucoup le problème de l'urbanisation, des terres agricoles qui disparaissent, là, il faut encore se poser la question. 30 hectares, c'est pas beaucoup, mais pour ceux qui les exploitent, ça fait quand même un petit trou dans leur foncier.
Alors, sur cette zone également, il y a de nombreux ruisseaux, hein, si je ne m'abuse, mais il y a pas mal de ravins avec des ruisseaux, ouais. Et on imagine qu'il y aura un impact aussi sur l'eau, non ?
Voilà, mais disons que ça n'a pas été étudié, enfin, tout au moins par nous. Hein. Peut-être après, peut-être ils vont en parler dans l'étude. Mais ce que je voudrais aussi aborder, c'est qu'il y a le côté écologique, mais il y a le côté, je dirais que c'est des terres de loisirs aussi. Parce que c'est des terres qui, du par le fait qu'elles sont des biens de section, tout le monde y a accès. Il y a beaucoup de sentiers, donc ça permet aux VTT de se promener, de faire des belles balades. Éventuellement au trial, il y a également le parc de loisirs du Bouscaillou qui les emprunte beaucoup avec les quads. Et puis si on se promène sur ces sentiers, on rencontre des chasseurs. Même s'ils ne tuent pas beaucoup de gibier, eh ben, ils se disent qu'ils nous répondent qu'ils prennent l'air. Il y a des gens qui, des fois, l'été, jouent à la pétanque à l'ombre d'un pin. Donc tout ça, je trouve que ce n'est pas négligeable. C'est un côté, un aspect quand même valorisant pour nos sectionaux.
Oui, voilà. Alors quand on parle de sectionaux, on parle forcément de communaux. Il faut rappeler peut-être le sens du terrain, des terrains communaux. Ce ne sont pas les terrains qui appartiennent à la commune, mais les terrains qui appartiennent à la communauté, donc à l'ensemble.
Alors, les sectionaux appartenaient à une section de la commune.
Voilà.
Hein, et ceux qui avaient le droit sur ces sectionaux s'appelaient des ayants droit. Maintenant, de par la loi 2013, ces sectionaux peuvent être annexés aux communaux. Mais il faut des procédures qui, aujourd'hui, n'ont pas eu lieu encore. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait délibération du conseil municipal, majorité absolue. Ensuite, il faut qu'il y ait vote des ayants droit, la majorité absolue. Et si cette majorité absolue n'existe pas, c'est le préfet qui doit décider. Mais il faut savoir qu'également, il y a indemnité des ayants droit. C'est-à-dire qu'on ne peut pas nous spolier comme ça et puis nous dire on ne vous connaît plus, on vous laisse dans votre coin.
D'accord. Et donc, sur Saint-Germain, alors, comment ça se passe? Comment c'est ressenti, justement, puisque vous parlez de cet avis nécessaire de la population des ayants droit?
Il faut bien reconnaître que sur Saint-Germain, on est devenu un petit peu village dortoir, qui, jusqu'à présent, une certaine population n'est même pas au courant de l'existence de ces sectionaux. Donc ils n'ont pas pris conscience ni du projet, ni de l'impact. Ceux qui sont un peu plus accrochés, je dirais, au village, dans la majorité, sont quand même contre. Parce que, comme je vous l'ai dit, c'est tout notre environnement, et je crois qu'à Saint-Germain, on a de la chance. Par rapport à Millau, on est très ensoleillé, on a un très bel environnement, et le voir petit à petit bousillé, c'est quand même... Ça nous fait mal aux tripes un peu.
Oui. Alors, pour peut-être aller dans l'autre sens, on va dire, la mairie citait l'exemple de Sigean qui a rapporté 100 équivalents temps plein. Voilà. Donc c'est un petit peu ce que faisait miroiter le maire. Il parle également d'un développement d'unités, d'accueil des touristes. Également. Est-ce que ça vous paraît des arguments à prendre en compte, ce genre de choses?
On peut pas être insensible au fait que ça crée de l'activité économique. Mais il faut quand même rester réaliste. La zone Viaduc 2, même si elle répond soi-disant à des critères environnementaux très stricts, est censé, à la base, être utilisé par des industriels, même si c'est des petits industriels, pour créer des emplois. Tous les terrains ne sont pas encore acquis, il y a encore des tas de choses à voir. Bon, ok, à Saint-Germain, on s'est presque fait à l'idée qu'il allait manquer des dizaines d'hectares pour réaliser cette zone. Pourvu que ça crée les emplois envisagés, mais on n'a pas encore de détails là-dessus. Mais c'est des emplois qui sont des emplois de faiseurs, des emplois de travailleurs, des emplois d'ouvriers, des emplois de personnes qui vont transformer de la matière première pour créer de l'activité économique réelle. Ces 120 emplois là de Sigean et reproduire le même schéma sur Millau me semble absolument ridicule. Je vous dis les choses telles que je le pense. Et tout miser sur le tourisme. Enfin, il faut quand même se rendre à l'évidence, c'est une grande pollution déjà visuelle, auditive, une présence. Et puis, c'est complètement hypothétique. Regardez, ce qui a été créé, il y a déjà des parcs d'attractions basés sur la vie animalière dans le département.
Le Pradinas, par exemple.
Ouais, qui ont du mal à vivre, qui ont... Mais ça va leur faire une concurrence déplacée. Placée sur l'A75, ça pourrait effectivement leur pomper. Donc on va créer des emplois éventuellement sur Millau, c'est pas encore sûr, pour en détruire de partout. C'est une opération à somme nulle, quoi. Et il faut pas se la jouer comme ça, parce que c'est totalement hypothétique. La plupart des réalisations de ce type finissent par un fiasco économique, quoi.
Très bien. Bon, écoutez, on va attendre les résultats de l'étude de faisabilité, en tout cas. Et puis, sans doute qu'on en reparlera, qu'on aura l'occasion de vous réinviter à ce sujet-là. Merci, merci en tous les cas à tous les deux. Merci Pierre Arnal, merci Guy Brahic d'être venu jusqu'à Radio Larzac pour répondre à nos questions.
Merci beaucoup à vous.
Voilà. Donc, on va terminer là l'émission. Hein. On a, je crois, eu un joli programme aujourd'hui. Merci Amélie.
Merci Nicolas.
Merci Amélie pour la technique.
De rien.
Merci à Edgar. Je ne sais pas où il est passé. Oui, il est derrière la vitre.
Merci à toi.
Voilà. Et à très bientôt. Je rappelle que pour ceux qui auraient loupé le début de l'émission, que vous pouvez nous réécouter en rediffusion ce soir à 19h. Restez à l'écoute sur Radio Larzac.